Bien, bienvenue à chacun d'entre vous ce matin. Bien, c'est une joie d'être ensemble, privilège. Merci pour ces chants, cette adoration ce matin qui monte dans la présence de notre Dieu. Juste avant d'aller au message ce matin, j'avais une petite annonce. Pour un frère qui part faire la mission, Jean-Marie et Hortense Attisto, ceux qui ont l'Internet, le Facebook, il y a une publication qui est passée par l'Union des Églises Baptistes francophones du Canada, notre famille d'Églises, qui reçoivent des dons pour les aider dans la mission. Et la même chose pour nous, si vous avez à cœur, soit que vous l'écrivez sur une offrande et pour la mission, ou venez me voir, puis je vais vous dire comment procéder, qu'on puisse envoyer, si possible, un don à ce frère, cette sœur, qui s'en vont œuvrer à l'extérieur. Donc, ce matin, on a eu un partage ce matin, justement, en contexte et en, je dirais, pour faire suivre avec le message de ce matin, qui, comme vous le voyez, s'intitule « Appeler à s'exhorter et à s'édifier » ou à l'édification. Donc, en rapport, bien, à l'Église, c'est comme il était partagé tantôt, c'est édifiant et c'est réconfortant, ça nous aide souvent à avancer lorsqu'on passe des temps plus difficiles, de savoir qu'il y a une armée, hein, qu'il y a une église, que l'Église est avec nous, qu'il y a des frères et des sœurs qui prient pour nous. On sent appuyé, on sent la présence de Dieu aussi qui répond aux prières et qui vient nous réconforter. Et j'avais écrit en début ce matin, pourquoi avons-nous besoin des autres et que nous ne pouvons vivre une vie de disciple, de chrétien seul? Bien, ça répond, hein, je pense, à ce qui a été partagé ce matin et ce qu'on va regarder ensemble à la question. À qu'est-ce que ça sert, hein, la vie d'Église et d'avoir une vie de communauté, bien, ça sert justement, comme la parole de Dieu nous enseigne, à pouvoir s'exhorter, à pouvoir s'encourager, à pouvoir aider lorsqu'il y a des personnes qui passent par des souffrances ou des temps difficiles. Donc, notre texte de ce matin se trouve dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 11. Dans l'Épître aux Thessaloniciens, le premier livre des Thessaloniciens, ce cinquième chapitre et verset 11. Et nous pouvons lire ceci. C'est pourquoi, on va regarder le contexte tantôt, mais c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui vient comme une révélation ce matin, mais ça devrait être quelque chose qui fait partie intégrante de la vie d'Église, de vouloir suivre le Seigneur, de marcher dans la volonté de Dieu, de réaliser que c'est une chose normale, que de travailler ensemble, à s'exhorter, hein, ça marque même réciproquement, donc il y a un lien proche ici dans le texte, et aussi de s'édifier les uns les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on a la pensée de dire, bien, s'exhorter puis s'édifier, c'est la même chose. Mais il y a une différence entre les deux qu'on va regarder ce matin au travers de la parole de Dieu. Et je dirais ce matin que sachant les temps dans lesquels nous sommes, hein, pour ceux qui ne savent pas, on est dans la fin des temps et juste savoir ce qui se passe et comment est-ce que tout est basculé, comment est-ce que les choses changent vite aujourd'hui. On était sur le gazon il y a une semaine environ, et dans l'espace de 12 heures, il y avait de la neige, un pied de neige, puis normalement, on dit, oh, c'est pas grave, demain, il n'y en aura plus. Mais ça a duré une semaine, puis on en a encore. Donc, on ne peut pas se fier à hier pour savoir aujourd'hui ce qui va se passer, parce que tout change. Même la température nous surprend. On a eu un été sec, quasiment pas de pluie. Donc, d'une année à l'autre, on voit que même la nature elle-même nous révèle, nous montre que le retour du Seigneur est proche. Le Seigneur parle à travers même sa création. Et dans le contexte aussi de l'Église, des chrétiens, je parlais avec des frères hier, des sœurs, et ils me contaient qu'eux aussi, hein, à l'extérieur, ils vivent la même chose. L'Église est éprouvée. Leur équipe de louange est éprouvée. Il y a beaucoup de pression aujourd'hui qu'on ressent, que l'Église ressent, et on n'est pas les seuls. Ça devrait nous réconforter d'un sens, mais de l'autre, de savoir que le Seigneur est fidèle, que même si on passe par des temps fidèles, des temps difficiles, bien, le Seigneur est là quand même. Et qu'on n'est pas seul, le Seigneur entreprend et est en action partout, même tout autour de la planète. Donc, ce qui ne doit jamais changer est le lien qui nous unit en Christ. Malgré toutes les circonstances qui peuvent venir de l'extérieur ou sur notre vie ou dans notre vie, il y a une chose qui ne change pas, c'est, hein, comme en réalité nous sommes déjà, c'est ce lien qui nous unit en Christ. Il n'y a rien qui devrait nous éloigner, que ce soit la maladie, hein, comme Paul dira, que ce soit la tribulation, l'angoisse ou ainsi de suite, il n'y a rien qui ne peut nous séparer de l'amour du Seigneur et de cet amour fraternel que nous avons les uns avec les autres. L'exhortation dont l'apôtre Paul parle est l'union dans la prière et la supplication, mais aussi notre engagement à parler avec bonté les uns des autres, afin de compter sur la parole ou les paroles de consolation qui sont sincères et réciproques. C'est toujours bien, c'est toujours bon, ça fait toujours agréable, ça fait du bien d'entendre des paroles de réconfort et de savoir qu'il y a des personnes qui sont là pour nous encourager lorsque il arrive des situations plus difficiles. Dans le contexte aussi, dans notre traduction, ça nous parle « encourager », 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, « encouragez-vous en réconforter ou réconfortez-vous dans une consolation, une prédication ou une prédication, c'est une consolation. » Donc, ce qu'on apporte le dimanche, hein, ça fait partie de l'édification commune que nous avons en Jésus-Christ. Donc, les uns les autres, et aidez-vous mutuellement à grandir et progresser dans la foi et la connaissance de l'Évangile du Seigneur. En construisant, ici j'ai pris plusieurs traductions de notre texte, et ça nous dit « en construisant la communauté comme vous le faites déjà ». Donc, nous sommes tous ensemble engagés à faire grandir notre lien en Christ, les uns avec les autres. Ce n'est pas seulement au pasteur que c'est demandé, ce n'est pas seulement à certaines personnes en particulier, mais c'est à toute l'Église, à s'investir, à faire grandir ce lien qui nous unit en Christ par l'exhortation et l'édification. Donc, l'exhortation dont Paul adresse à l'Église de Thessalonique et à nous ce matin est de s'appliquer et d'appliquer notre vie à notre vie un principe de compassion, d'accueil, d'encouragement pour ceux qui sont anxieux ou craintifs face aux derniers temps dans lesquels nous sommes aussi. Donc, il y a plusieurs aspects qui couvrent ces deux choses et qui couvrent aussi chaque situation dans laquelle nous pouvons passer ce matin. À quoi sert l'exhortation? C'est une question que que je pose à la parole ce matin. Hein, je ne la pose pas directement, je vais la poser au Seigneur. Seigneur, enseigne-moi qu'est-ce que l'exhortation? Qu'est-ce qu'une exhortation selon ton bon vouloir? Comment est-ce que toi, tu vois l'exhortation? Et j'ai la réponse. Le Seigneur nous donne la réponse dans Hébreux, chapitre 3, verset 13. Il est dit ici, dans Hébreux, chapitre 3, verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Donc, une exhortation, c'est quelque chose qu'on a besoin à tous les jours dans notre vie, comme nous le faisons déjà, hein, comme vous le faites. Donc, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour. » Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Et pourquoi l'exhortation? Et même aujourd'hui qu'on a besoin, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Donc, il y a une raison précise pourquoi le Seigneur nous encourage à nous exhorter les uns les autres. Les exhortations et encouragements que nous échangeons entre nous lorsque nous sommes ensemble sont tous des victoires que nous partageons entre nous et les uns avec les autres. Des victoires que nous avons traversées et vaincues en Jésus, avec le Seigneur. Nous avons un besoin vital, et l'Église a besoin d'un besoin vital, d'être un encouragement pour tout le monde. On a tous besoin, à un moment donné, d'être encouragés, et même quand ça va bien. Parce que la parole nous dit à tous les jours, et aujourd'hui encore, j'ai besoin d'exhortation, j'ai besoin d'encouragement. Et comme d'autres mentionnent, d'autres commentaires vont parler, eux, d'être encouragés par ce que le Seigneur accomplit dans la vie des autres aussi. Donc, c'est l'édification commune qui se produit lorsqu'on s'exhorte, lorsqu'on partage ensemble notre quotidien, comment est-ce que le Seigneur m'a aidé à telle situation, dans telle occasion, le Seigneur a tendu sa main puis m'a sorti de telle ou telle chose. Comment est-ce que le Seigneur est venu apaiser mon cœur? Hein, lorsqu'on prend des temps de prière le mercredi, combien de fois est-ce qu'on partage ensemble? Puis, c'est bénissant, on passe des temps qui nous encouragent à continuer encore et encore. Et on sait que pour les disciples, hein, les apôtres, ils se voyaient, ils ont continué à se voir chaque jour. Même après que le Seigneur soit parti, toutes les occasions qu'ils avaient d'être ensemble, ils étaient là. Ils étaient là. Parce qu'ils avaient besoin de cet encouragement-là. Ils savaient qu'ils en avaient besoin. Qui sait si aujourd'hui ton témoignage n'a pas servi à ce que ton frère ou ta sœur ne se laisse tromper ou séduire par le péché et ne s'endurcisse. Parfois, on va dans l'assemblée, on vient à l'assemblée, puis ça ne nous tente pas. On est fatigué, on est découragé. Ce n'est pas la force. Puis là, on se pousse, « Ah ouais, il faut que j'y aille. Faut que je sorte, faut que je fasse quelque chose. » Puis on arrive à l'église, à l'assemblée, puis le Seigneur te donne une parole. Combien de fois c'est arrivé? Et c'est souvent, même lorsque ça nous tente le moins, qu'on est le plus béni. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est souvent lorsque j'avais pas envie de faire quelque chose, hein, de faire un pas pour le Seigneur. « Ah, Seigneur, je te fais confiance, je vais y aller quand même. » Puis c'est majoritairement là que le Seigneur se servit d'un frère, d'une sœur, du message, d'un partage pour venir me donner le courage de continuer, m'aider à passer par-dessus la situation ou l'état dans lequel je me trouve. Et même dans la louange. La louange, à Saint, lorsqu'on s'approche, la parole de Dieu nous dit rentrer dans ses portes, rentrer dans ses parvis, avec des louanges, des actions de grâce, répandant votre cœur devant l'Éternel, devant le Seigneur. Et ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Le Seigneur se sert de la louange se sert d'un temps que nous passons pour nous approcher de lui, souvent pour nous parler par son esprit. De venir nous révéler des choses, de venir nous encourager par un chant, un cantique. Le Seigneur se sert de différentes façons pour venir justement nous rencontrer et nous relever. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et cette bout de phrase-là, les uns des autres, on le retrouve 45 fois dans les Écritures. Les uns les autres, les uns les autres, les uns les autres. On a tous besoin les uns des autres. Le Seigneur nous a créés et nous a fait afin qu'on soit en communauté, qu'on ne soit pas laissé seul, qu'on ne reste pas seul. Et lorsqu'on reste seul, bien souvent, bien c'est sûr que parfois on a besoin d'un temps seul, mais lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, qu'on se réunit ensemble, souvent le Seigneur vient nous encourager, les uns les autres, et nous encourager comment? Dans l'amour fraternel. Et nous sommes bénis d'avoir une Église qui vit cet amour-là, cette charité-là, cette proximité-là, les uns avec les autres. Que lorsqu'il y a un besoin, on est libre et on se sent à l'aise de pouvoir le partager pour justement pouvoir prier pour l'autre. Et encore cette semaine, même hier, il y avait une sœur qui est venue me voir et dit « Prie pour moi, prie pour ma famille. » Prie pour mon garçon, afin que le Seigneur intervienne dans sa vie et change la situation. Et on est là pour elle, on est là pour tout le monde, pour tous les besoins. Parce que l'Église a des besoins. On n'est pas là seulement pour venir voir, venir dans la présence de Dieu, Seigneur, donne. Mais on est là aussi pour s'encourager. Le Seigneur, oui, est là pour mon frère et ma soeur pour répondre. Mais le Seigneur nous a mis en communauté pour qu'on soit ensemble aussi. Ensemble. Les uns et les autres. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 7, Jean nous dit, si bien aimé, hein, il parle à l'Église. Il ne parle pas aux gens du dehors, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Il parle à ceux qui connaissent le Seigneur, qui ont reçu le Seigneur dans leur vie. Et qu'ils font partie de cette famille, de cette communauté du Seigneur. Et il dit, bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Hein? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, par l'amour que vous avez les uns et les autres. Encore une fois. Donc, nous avons besoin de cette édification. Nous avons besoin d'être exhortés. Nous avons besoin de prédication, d'encouragement, d'enseignement, afin de savoir comment répondre. Hein, lorsque quelqu'un aussi vient vers nous pour nous demander de l'aide, comment je peux répondre? Bien, répondons avec notre cœur, avec ce que le Seigneur place dans notre cœur, dans notre vie. L'exemple, c'est notre témoignage. C'est notre témoignage. Pierre aussi, hein, cet apôtre, a parlé de l'édification. Dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, il dit ici, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, ce texte, ce mot, « édifier », dans la définition du grec, il nous parle de bâtir. Lorsqu'on édifie quelqu'un, on est en train de bâtir un lien ensemble d'affection, d'amour. Lorsqu'on édifie, on encourage notre frère, on est en train de poser des fondements, on travaille à ses fondements, dans ses fondements avec lui, afin qu'il puisse grandir dans sa foi lui aussi. Et ça, c'est donné à chaque enfant de Dieu, de pouvoir participer à l'œuvre de Dieu en encourageant notre frère, notre sœur, en venant travailler dans ses fondements, dans sa foi, en venant l'encourager, venir avec le Seigneur. Parce que le Seigneur travaille aussi à travers nous. Oui, mon frère, le Seigneur, il peut se diriger directement vers lui. Mais le Seigneur se sent aussi de l'Église. Il se sent aussi de son corps pour aider et encourager, pour même former. Hein? Ça nous parle aussi pour former une maison spirituelle, inspirée de l'Esprit divin, inspirée du Seigneur. Nous sommes tous au service de Dieu ce matin. Et volontairement. Volontairement. Il n'y a personne qui est venu nous voir et nous dire « t'es obligé d'accepter le Seigneur, t'es obligé de le suivre, de faire... » Non, on l'a fait volontairement. À cause de quoi? À cause que lui m'a aimé le premier. À cause que lui s'est donné et est venu comme serviteur. Afin que moi aussi, je sois un serviteur de l'Éternel. Afin que moi, je marche dans ses traces, comme lui a marché. Afin que je devienne de jour en jour, que je progresse à l'image de Christ. C'est ça le but du Seigneur dans notre vie. Un saint sacerdoce, nous dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 5, la suite de notre contexte, de notre texte. Un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Offrir des victimes spirituelles. J'aime ça, cette expression-là. Offrir des victimes spirituelles, amener des personnes au Seigneur. Les conduire, les diriger vers le Seigneur, dans leurs besoins, par une exhortation, par un encouragement, en tendant ma main. Toute prière faite sous la forme d'une exhortation doit être inspirée de l'Esprit de Dieu, de notre Dieu qui est vivant. Nous devons chercher la direction du Seigneur. Et parfois, on parle avec des personnes, puis ils nous disent, je parlais avec un autre, puis là, ben, c'est le témoignage, hein, et il me parlait, je parlais avec une autre personne, puis je me suis arrêté devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise? Seigneur, qu'est-ce que je dois lui parler? Comment je dois l'exhorter? Comment je peux l'encourager? Puis le Seigneur, parfois, nous donne des paroles. Je disais, waouh, que ça devient cette affaire-là. Où est-ce que ça devient? Ça m'est déjà arrivé aussi. Hein, on encourage, puis là, il sort des paroles. Tu dis, waouh, merci Seigneur, parce que ton esprit nous conduit. C'est lui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour aider l'autre. Nous, on n'a pas la capacité. J'aurais beau vouloir dire les plus belles paroles, mais s'ils ne sont pas inspirés de Dieu, c'est juste des paroles. Mais lorsque le Seigneur intervient à travers nous, puis nous donne des paroles qui touchent directement le besoin de la personne. Un frère qui me témoignait hier, il dit, le Seigneur m'a donné, je travaillais, puis j'ai témoigné à un gars avec qui je travaille. Mais il faut rester à l'écoute. Il dit, je l'ai encouragé, ni faire un tour à l'église, ni voir qu'est-ce qui se passe. Viens, je t'invite dimanche. Fait que ça reste de même. Le gars dit non, ça ne m'intéresse pas. Fait que c'est bon. Fait qu'il se vit d'abord, puis il s'en va. Là, le Seigneur dit, va le voir, puis va lui demander qu'il vienne à l'église dimanche. Il dit, Seigneur, je viens d'aller le voir. Et le Seigneur, il encore plus fort sur mon cœur. Va vers lui, puis dis-y qu'il doit. Invite-les à venir à l'église. C'est correct. Il s'en va leur voir. Il dit, ça fait 2 minutes. Il m'en va leur voir. Il dit, je veux te réinviter à l'église. Il dit, j'aimerais ça que tu viennes. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais ce serait important. Fait que là, le gars, il le regarde, il dit, j'y vais. OK? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, t'as heure, tu ne voulais pas, là, tu es vieux. Ben, je suis content, mais il dit, tant mieux. Mais il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, le temps que tu es parti, je me suis tourné vers Dieu, j'ai dit, si tu veux que j'y aille, fais qu'il revienne me revoir pour me dire, pour me réinviter une autre fois. Puis le Seigneur, il a renvoyé le gars pour lui dire, viens avec moi à l'église un dimanche. Mais j'ai pas le choix de dire oui. J'ai demandé à Dieu, puis il revient me voir. Hey. Des fois, Seigneur, hein, t'as pas besoin de grand-chose, de grandes paroles, juste d'être à l'écoute de ce que le Seigneur veut que tu fasses. Des fois, c'est simple. Mais le Seigneur agit dans la simplicité. On n'a pas à chercher des grandes lois théologiques, des fois, hein? Des grandes... Mais c'est d'être à l'écoute du Seigneur de l'Esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur, tout simplement, va le voir. Hein? Et voilà. Le Seigneur l'a amené à lui. Il est allé à l'église, il a accepté le Seigneur, fait la prière de repentance, puis il aime le Seigneur. Juste obéissance. Nous nous édifions et bâtissons notre foi et espérance sur un solide fondement. Sur un solide fondement. Pas sur des oui-dire, sur des choses qui ne sont pas certaines, mais sur des choses qui sont vraies et solides. Sur la foi en Jésus-Christ. Et pourquoi cette foi-là est si solide? Parce que nous avons des témoins depuis plus de 2000 ans, des vies transformées, de personnes qui ont été touchées par le Seigneur, dont le Seigneur s'est révélé à travers sa parole. C'est ce qui fait que ce fondement est aussi solide, parce qu'il est vivant, parce qu'il est la vérité, la seule vérité dont nous avons besoin dans notre vie. Et cette vérité, c'est Jésus qui est le rocher, qui a été formé, qui a été donné à l'Église et qui l'a placé en chacun de nous. Nous nous édifions et bâtissons notre foi et espérance sur le solide roc et rocher divin, afin de former ensemble une maison qui est spirituelle. Notre tente et notre édifice est fondé sur la divinité de notre grand Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le contexte de notre texte de ce matin, qu'est-ce qui était le contexte? Je dois revenir, faire une petite parenthèse pour poursuivre ensuite. Le pourquoi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, et ensuite les versets 12 à 15. Nous pouvons lire ceci. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. Versets 12 à 15, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération, du respect pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent, qui vous avertit. Hein? » Exhortation ici signifie un avertissement. Donc, c'est une autre définition, si vous voulez, de notre texte qu'on a vu tantôt, qui était un encouragement, qui était... Hein, comme une main tendue pour aider. Mais le mot ici a cette définition plus spécifique d'un avertissement aussi. Ayez pour eux beaucoup d'affection, de respect ou d'estime à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Vous voyez l'exhortation ici qu'on a vue? C'est pour ça que ça veut dire averti, c'est cette signification-là, à cause de la suite du texte dont Paul parle ici. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Hein, je mettrai ici avec amour. Consolez, donc tu n'es pas là pour juger. Hein, c'est pour ça que je parle d'amour ici, parce que On est dans la consolation et non dans le jugement, ceux qui sont abattus. Supporter les faibles. Hein, au lieu d'écraser, de chercher à battre, ton exhortation doit plutôt avoir cette poussée, si vous voulez, de plutôt supporter, d'être un support pour l'autre, pour les faibles. User de patience même envers tous. Avoir de la patience. Hein? Quand des fois, on voit que les personnes, on est là pour les encourager, pour les consoler, pour les encourager, les consoler, les encourager. Puis c'est une roue qui tourne, puis là, il va-tu s'en sortir? Ça va-tu aboutir? Mais ça parle de patience ici. Parce que c'est le Seigneur qui est souverain. C'est pas nous. Nous, on est là pour aider, pour soutenir. C'est le Seigneur qui fait le reste. Donc, il faut user de patience pour que le Seigneur n'ait jamais en retard, comme dit mon frère. Mais parfois, il faut être patient. Il nous demande d'être patient parce que c'est en son temps. En son temps. Il n'est jamais en retard, mais des fois, c'est nous qui on est habitués à voir rapidement aujourd'hui. Donc, usez de patience envers tous. Verset 15, « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. » Usez toujours de bien. Poursuivez toujours le bien. Donc, c'est toujours être en train de travailler ou d'œuvrer à l'encouragement. L'Église ou l'Assemblée du Seigneur ne devrait jamais être un lieu de colère. C'est pour ça le verset 9 que je parlais au début, que Paul a mentionné, Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Et l'Église aussi, les chrétiens, doivent faire attention à la colère, à se laisser emporter dans la colère. Il y en a qui disent que c'est une sainte colère, mais des fois, c'est pas le mot saint n'a pas sa place. Donc, faisons attention à ces choses-là. Ne pas être en colère contre ton frère parce qu'il passe par des temps difficiles, mais plutôt exhorte-le, encourage-le avec amour, respect, compassion, que ce soit le fruit de l'esprit qui paraisse à travers toi plutôt que une colère. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à ne jamais être ou que l'Église soit un lieu de colère, mais plutôt, elle devrait être le premier endroit où nous pouvons exprimer le respect et beaucoup d'affection. Un endroit où lorsqu'une personne nous avertit quand nous avons mal agi, bien que les gens n'aient pas de mépris envers nous par la suite. Mais qu'ils comprennent que c'est pour l'aider, l'encourager. C'est pas pour détruire sa relation avec le Seigneur. C'est pas pour l'éloigner du Seigneur, si j'avertis. Et ça fait partie de l'exhortation. Mais c'est plutôt pour l'aider à être consolé, à être plus fort, puis avancer avec le Seigneur. Que les gens n'aient pas de mépris envers nous, mais plutôt qu'ils soient compatissants et toujours prêts à aider, à consoler, à supporter, en exerçant la patience et l'amour sans esprit de vengeance et de rivalité. C'est ça que Paul parle dans le contexte. Ne pas avoir un esprit de vengeance et de rivalité, des personnes qui veulent toujours accomplir ce qui est bien et qui contribuent à l'édification. Qui contribuent à l'édification, à la croissance. Et ça veut dire au fondement même de ce que Dieu veut, ce que le Seigneur désire. Tout comme nous rappelle aussi Romains chapitre 14, verset 19, où il nous a dit ici, « Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Hein, » c'est ça l'œuvre du chrétien, du disciple du Seigneur. Celui qui marche avec le Seigneur recherche et contribue à la paix. Et non au désordre et à toutes sortes de débordements. Mais à la paix et à l'édification. L'encouragement, c'est ça que ça veut dire. Action de celui qui aide, c'est vrai, j'avais écrit la définition ici. Action de celui qui aide et qui contribue à la paix et à la croissance de quelqu'un dans la sagesse de Dieu, hein, dans les Saintes Écritures, qui sont la piété, le bonheur et la sainteté. Et c'est ça qui doit transparaître au travers nos encouragements. Afin que ton frère grandisse dans sa piété, dans sa marche avec le Seigneur, qu'il retrouve le bonheur dans le Seigneur, et qu'il marche et qu'il ait une vie plus sainte, hein, plus à la ressemblance du Christ. Une vie de communauté basée sur Jésus-Christ, la pierre angulaire et la principale de l'angle. Ésaïe, chapitre 28, verset 16. Hein, on retrouve cette pensée même dans l'Ancien Testament. Ésaïe a écrit 500 ans avant que Jésus en parle. Il avait écrit en disant, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, hein, qui a vécu, hein, qui a survécu même. Une pierre qui est éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a posé, ce fondement. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Pourquoi? Parce qu'il va rechercher sa présence. Il va rechercher la présence de Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 6, 1 Pierre va nous le rappeler en nous disant que c'est, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre, en faisant référence au texte qu'on vient de lire, une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Donc, il amène un autre aspect ici. Pierre nous parle de la foi, de placer notre foi en Jésus qui, lui, est la pierre principale. Nous avons ce que le plus précieux pour Dieu. Vous savez, nous savons, chacun de nous, ce qui est le plus précieux pour Dieu, son Fils bien-aimé. Il l'a donné pour toi ce matin. Il l'a donné pour chacun de nous. Et il est allé à la croix pour toi ce matin, pour chacun de nous. C'est le Père qui nous l'a donné afin que nous placions notre foi, notre espérance et toute notre confiance en lui. Paul dira dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, « Vous avez été édifiés. Vous avez été bâtis. Hein? Votre foi est bâtie dessus ce fondement, qui est le même fondement que les apôtres et les prophètes. » Et il va dire ici, « Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Et qu'est-ce qu'une pierre angulaire? Ça nous parle d'une pierre angulaire qui est placée à un coin extrême où, littéralement, la tête de l'angle, la principale, celle qui tient tout. Il désigne donc à la fois une pierre d'angle et une clé de voûte. Donc, ceux qui sont en construction, il y a des points d'appui. Lorsqu'on veut bâtir un bâtiment, on veut monter un édifice, et ça prend des appuis qui sont solides pour pas qu'ils lâchent avec le temps, avec les années, pour que la bâtisse s'effondre. Et Jésus est le fondement solide de notre édifice, de notre vie. C'est lui qui est la pierre principale que Dieu a donnée à l'Église, comme chef. Sommeur, dans la traduction du sommeur, ça nous parle, je trouvais ça intéressant, comment est-ce qu'il traduisait. Il dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres et ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Je trouve ça intéressant, comment est-ce que la traduction du sommaire nous donne. Dieu nous a intégrés à son bâtiment, à sa bâtisse, à son édifice. Nous sommes érigés, frères et sœurs, sur Christ, sur cette pierre solide. Et à quoi ça me faisait penser? On va revenir tantôt. N'est-ce pas ce que Jésus a dit à Pierre? En lui révélant que c'était lui, Jésus, la pierre principale dont il devait placer sa foi. C'est ce que Jésus a dit, même à Pierre. Il dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Et moi, je te le dis, hein, je le déclare, que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai ou j'édifierai mon Église. » Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, ou encore contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Même la mort ne peut rien contre le fondement, contre cette pierre angulaire qui est Jésus. Lorsqu'on place notre foi en lui, nous sommes bâtis sur du solide. C'est ça que Jésus est en train de dire à Pierre. Il n'a pas dit, c'est toi qui vas être cette pierre. Non, il dit, je suis la pierre angulaire sur laquelle tu dois et que tu seras mis, que tu seras placé. Puisque Jésus a vaincu la mort une fois pour toutes, elle n'a plus de pouvoir sur nous, car elle a été vaincue et que nous avons la vie éternelle par la foi en Jésus, par la foi en son Fils. Quel privilège! Nous disons souvent avec raison que Jésus est au centre de chaque réunion de culte ou ministère dans l'Église, dans l'Assemblée. Hein, on dit souvent ça dans le milieu chrétien, évangélique. Ah, Jésus est au milieu et le Seigneur même nous précède. Ce matin, il nous a précédés pour ce culte. Il était déjà là. Il attendait qu'on vienne l'adorer, qu'on vienne s'approcher de lui dans la louange. Et même, disons qu'il est le centre de toute notre vie et de la vie d'Église. Il en est aussi, il ne faut pas oublier, qu'il en est, oui, il est au milieu, qu'il est là, qu'il est présent à chacune de ses réunions, à chacune de ses rencontres, de ses cultes, qu'on a du temps ensemble, que ce soit dans une étude, que ce soit au travail dimanche matin ou dans la prière, hein, même lorsqu'on va dans les maisons. Mais le Seigneur est au milieu de nous, mais encore plus que ça, il est le fondement de tout. Il est le fondement. Il n'est pas juste là, il est la base pour laquelle on se réunit. Il est la raison pour laquelle on se réunit. Sans lui, nous ne serions jamais connus. Sans Jésus, on ne serait pas ici ce matin. Mais grâce à la grâce de Dieu, parce que c'est à cause de la manifestation de la grâce et du don de Dieu qu'il a eu envers nous, que nous avons ce privilège d'être ensemble, de pouvoir le louer, l'adorer, de pouvoir s'édifier, s'encourager les uns les autres. Donc, je terminerai par cette pensée ce matin. À tous ceux qui sont disciples et enfants de Dieu ce matin, je dis que nous sommes tous appelés à nous exhorter et à nous édifier les uns les autres, sans exception. Sans exception. Car aujourd'hui, comme à chaque jour, le Seigneur se sert de toi. Le Seigneur se sert de toi pour que toi, tu sois son témoin et un outil qui sert à maintenir et à faire grandir son œuvre. Donc aujourd'hui, tu peux être un sujet, tu peux avoir édifié, encouragé ton frère. Et le lendemain, ça peut être toi qui vas avoir besoin d'être édifié, encouragé. Donc le Seigneur a besoin de chacun. A besoin de ce lien hein, qui nous bénit. A besoin de ce lien pour nous bénir. Donc le Seigneur continue cette œuvre hein, qu'il a commencée parmi nous, au milieu de nous et en nous. Et qu'il la rende grande davantage. Qu'on puisse apprendre à travers ces liens hein, qui nous unit au Seigneur à connaître sa pensée, sa volonté. Donc, c'est ce que j'avais à nous partager ce matin. Je vous souhaite une belle semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne et vous amène dans un lieu, une assemblée où ce que vous allez pouvoir vivre une vie pleine de bénédictions.